Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Notre étude de ce soir nous ramène au premier chapitre de Romains. Ces derniers mois, nous avons commencé l'étude de cette merveilleuse épître de Paul à l'église de Rome, dans laquelle il présente l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous examinons maintenant les versets 19-23. Ce soir, nous allons résumer notre examen de ces versets. Permettez-moi de vous lire le texte commençant au verset 18. Ici, Paul commence vraiment le corps principal de sa lettre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Maintenant, nous avons intitulé cette section « Raison de la colère de Dieu ». La colère de Dieu révélée au verset 18 et sa justification au verset 19 à 23. Nous vous avons donné quatre points ou quatre raisons pour la colère de Dieu. Le dernier que nous allons examiner ce soir est la religion. Nous y reviendrons dans un instant. Vous serez peut-être intéressé de noter que les hindous, par exemple, ont quelque 330 millions de dieux, ce qui équivaut environ 8 par famille. 450 millions d'hindous ont 75 millions de vaches à adorer. En Thaïlande, il y a 20 000 temples bouddhistes, un pour chaque chrétien baptisé. En fait, une dent décolorée de 2 pouces de long est vénérée par 400 millions de bouddhistes, comme l'objet le plus sacré de la terre. Ils prétendent que c'est une dent sauvée du bûcher funéraire de Bouddha, en 543 avant Jésus-Christ. C'est sa dent. Ils l'ont placée dans une fleur de lotus dorée dans un temple appelé le temple de la dent, à Kandy, Ceylan. Ils l'ont entouré de rubis. Ils l'entourent de myriades de fleurs. Les gens viennent de nombreux pays pour l'adorer en apportant des cadeaux en or, en argent et en bijoux. Les bouddhistes croient que leurs bouddhas sont vraiment des dieux vivants. En fait, à Fuzhou, en Chine, un des 15 bouddhas en bois sur une étagère de temple est tombé accidentellement sur un homme et l'a tué. Sa famille a exigé un procès en accusant Bouddha de meurtre. Il a été reconnu coupable, tout comme les 14 autres Bouddhas sur l'étagère, et ils les ont tous décapités. Ils croient vraiment que leurs dieux sont de vrais êtres. Certaines des reliques du christianisme apostat diffèrent un peu de cela. Par exemple, l'Église romaine prétend avoir les cheveux de la Vierge Marie. Ils en ont plusieurs boucles, une dans une église de Naples, une autre dans une église de Rome. Ils disent aussi que dans la cathédrale à Pérouse se trouve son alliance. Ils ont sa sainte ceinture à l'église de Prato. Des gouttes de lait vierge sont conservées dans l'église San Guadioso et Patricio de Naples et Sainte Maria du Peuple à Rome. Le bassin sacré utilisé lors de la scène est censé être conservé dans la cathédrale Saint-Laurent de Gênes. La lance qui a percé le côté de Jésus et le voile de Véronique avec les traits du Christ imprimés et la tête de Saint-André sont tous conservés dans les 4 piliers massifs qui soutiennent le dôme de Saint-Pierre à Rome. Le linceul de sépulture du Christ est censé être le suaire de Turin, et cela ne semble déranger personne que la Bible dise que Jésus était enveloppé dans un drap et que sa tête était protégée par un linge à part, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. La pierre de marbre rectangulaire, avec les empreintes de pas du Christ, est conservée dans l'église Saint-Sébastien de Rome. Ils ont 3 omoplates, 4 jambes, 5 bras, 50 index. Tous appartiennent à Jean-Baptiste. Tous les 50 index sont de véritables doigts qui pointaient et disaient « Voici l'agneau de Dieu. Nous vivons dans un monde très religieux. Beaucoup de religions. Même dans notre propre société, les jeunes affluent vers les cultes. Ils s'identifient aux groupes religieux. Au moins 2,6 milliards de personnes dans le monde ont une affiliation religieuse identifiable. C'est plus que la moitié de la population mondiale. Ils disent que 1,7 milliard de personnes dans le monde ont une religion non identifiée. Les sondeurs, alors, et les personnes qui comptent les personnes, déterminent que s'ils ne savent pas quelle est votre religion, ils assument que vous en avez une, et disent simplement que votre religion n'est pas identifiée. L'homme est religieux. Maintenant, est-ce que l'homme cherche vraiment Dieu dans toute cette religion? Est-ce cela? Est-ce que l'homme lutte à travers sa confusion primitive et le chaos de son monde? Est-ce qu'il lutte contre les traditions et les erreurs de ses ancêtres passés? L'homme a-t-il vraiment du mal à trouver son chemin à travers toutes ces choses pour atteindre le vrai Dieu? Cet homme est-il en train de monter vers Dieu? Cet homme monte-t-il par animisme, polydémonisme et polythéisme finalement? Vers le monothéisme ou vers un seul Dieu et enfin vers le vrai Dieu? L'homme est-il vraiment sur la bonne voie? Devrions-nous tapoter les hommes dans le dos et dire « Nous vous félicitons pour votre poursuite de Dieu. Nous honorons le fait que vous cherchez Dieu. » L'homme est-il alors à plaindre parce qu'il travaille si dur, qu'il ne semble tout simplement pas pouvoir trouver la vérité, qui ne lui est pas facilement accessible pour une raison ou une autre? Essaie-t-il simplement de mettre Dieu au point et fait tout ce qu'il peut pour focaliser l'objectif? Mais Dieu est tellement flou, et il a fait de son mieux. Les théologiens libéraux voudraient que nous le croyions. Si Dieu envoie alors cet homme en enfer, qui consacre tous ses efforts pour mettre la chose au point, Dieu n'est-il pas injuste? Après tout, l'homme est religieux. L'homme a fait ce qu'il pouvait pour le trouver. Les libéraux nous diraient également qu'il n'y a pas d'enfer. Mais ce n'est pas ce que Paul nous dit dans Romains 1. Paul nous dit que l'homme ne monte pas à la religion. Il descend à la religion. C'est le message de Romains 1, 19 à 23. L'homme est à plaindre, non pas à cause d'un manque d'occasion, mais parce qu'il ne peut pas se concentrer clairement. Pas parce que Dieu est injuste, mais l'homme est à plaindre parce qu'il refuse la vérité. Ayant refusé la vérité au plus haut niveau, il descend au gouffre de la religion. L'homme n'est pas sorti de la boue du paganisme pour découvrir Dieu. Il a quitté la connaissance de Dieu et est descendu dans la boue du paganisme. La religion n'est pas l'ascension de l'homme. La religion est la descente de l'homme. Maintenant, c'est un passage critique, parce que vous devez voir la justice de Dieu liée à tout cela. C'est pourquoi il commence au verset 18 en disant « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » En d'autres termes, Dieu est en colère contre les hommes. Dieu exige qu'ils affrontent les conséquences de leurs péchés. La raison pour laquelle il a le droit d'être en colère découle de ce que Paul dit à la fin du verset 18. « Les hommes détiennent la vérité, mais ils l'abandonnent. » Le verset 19 dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Mais ils laissent cela. Le verset 21 dit « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Le verset 23 dit « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. C'est la descente de l'homme. Maintenant, nous avons toujours dit que lorsque Paul ouvre l'évangile, il commence par la mauvaise nouvelle. Il faut avoir les mauvaises nouvelles avant les bonnes nouvelles. D'abord le danger, puis le libérateur. D'abord le jugement, puis la voie de l'évasion. D'abord la condamnation, puis le pardon. D'abord la culpabilité, puis la grâce. Tout le message du pardon, tout le message de la grâce rédemptrice, tout le message de l'amour de Dieu, tout le message de la mort du Christ sur la croix, en votre nom et au mien, est basé sur le fait que nous comprenons que l'homme est vraiment, honnêtement coupable devant Dieu, d'avoir abandonné la vérité de Dieu. C'est le thème du message de Paul, en fait, commençant à Romains 1, 18 et allant jusqu'à Romains 3, 20. Une bonne partie du chapitre 1, tout le chapitre 2 et une bonne partie du chapitre 3 traite le fait que l'homme est coupable devant Dieu. Il est pécheur. Ainsi, la haine indignée de Dieu pour le péché est continuellement révélée du ciel contre les hommes impies, parce qu'ils ont la vérité, mais ils la laissent de côté en poursuivant le gouffre de la religion, ce qui, soit dit en passant, est le blasphème ultime, car il substitue un faux Dieu pour le vrai Dieu. Un écrivain dit « La juste colère de Dieu ne monte jamais et ne diminue jamais. Elle est toujours à marée haute en présence du péché. » Parce que Dieu est immuable et inflexiblement saint. Ainsi, Dieu révèle continuellement sa colère contre le péché. En fait, dans le psaume 7:11, se trouve cette déclaration intéressante. Dieu s'irrite en tout temps. Il s'irrite continuellement contre le péché. Vous dites, est-ce que Dieu a le droit d'être en colère? Bien sûr. L'indifférence au péché serait un défaut moral. Celui qui ne hait pas le péché est un lépreux moral, a déclaré Arthur Pink, et il a raison. Comment celui qui ne se réjouit que de ce qui est pur et beau pourrait-il ne pas détester ce qui est impur et laid? Comment celui qui est infiniment saint pourrait-il ignorer le péché qui viole cette sainteté absolue? Comment celui qui aime ce qui est manifesté par la justice pourrait-il ne pas haïr et agir sévèrement contre l'iniquité? Comment celui qui est la somme de toute excellence pourrait-il regarder avec satisfaction la vertu et le vice également? Il ne pouvait pas, et il ne peut pas parce qu'il est saint, juste et bon. Il déteste le péché. Il a le droit de réagir parce que l'homme est coupable. L'homme a tourné le dos à la connaissance disponible de Dieu, et nous l'avons vu en parcourant ces versets. La colère de Dieu est simplement la réaction appropriée de la sainteté face à l'iniquité. Paul veut que nous sachions qu'avant de comprendre la grâce de Dieu, nous devons comprendre la colère de Dieu. Avant de pouvoir comprendre la signification de la mort du Christ, et avant de comprendre à quel point Dieu est aimant, à quel point il pardonne, et à quel point il est miséricordieux, nous devons comprendre à quel point nous sommes coupables et indignes. Sa colère, d'ailleurs, n'est pas moins une perfection divine que son amour ou sa sainteté. C'est tout autant un élément de sa perfection que toute autre chose. C'est une perfection divine. Dans le psaume 95:11, par exemple, il est dit « Aussi je jurerai dans ma colère ». Dieu dit certaines choses dans sa colère. Il jure dans sa colère qu'il fera certaines choses. Maintenant, il y a deux occasions dans l'Ancien Testament où Dieu a juré. Deux fois Dieu jure de faire quelque chose. Premièrement, lorsqu'il fait une promesse, comme dans Genèse 22:16, ou à tout autre moment où Dieu dit qu'il jure et fait une promesse. Cela signifie que ce sera réalisé. L'autre fois que Dieu jure, c'est en dénonçant et en appelant au jugement, comme Deutéronome 1:34, et vous pouvez consulter ces exemples. Nous savons que Dieu jure qu'il sera miséricordieux envers ses enfants. Parfois, il jure de terrifier les méchants. Dieu apportera aussi sûrement la colère sur les méchants qu'il apportera sa miséricorde sur les justes. Il jure de faire les deux, et nous devons le comprendre. Dieu est parfaitement en colère, et il aime parfaitement parce que les hommes sont coupables. Maintenant, il y a quatre raisons pour lesquelles la colère de Dieu est justifiée. Premièrement, regardons en arrière et rappelons-nous la révélation. Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes ont reçu la vérité. Le verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Comment a-t-il fait cela? Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde. Elles sont comprises par les choses qui ont été créées. Vous pouvez connaître sa nature surnaturelle et sa grande puissance en regardant simplement la création. J'ai lu cette semaine la déclaration d'un scientifique qui a dit « Les phénomènes de la nature révèlent les deux qualités de force et d'intelligence travaillant en parfaite harmonie. Il faut voir la force et voir une formidable intelligence. C'est ce que dit Paul. Vous pouvez voir sa puissance éternelle et vous pouvez voir sa divinité, son intelligence et sa sagesse surnaturelle infinie simplement en regardant le monde autour de vous. Or, Dieu se manifeste dans la création de sorte que l'homme est sans excuse. Nous avons essayé de vous montrer que si l'homme vivait à la hauteur de la lumière qu'il voit dans la création, Dieu lui révélerait le reste des vérités. Mais l'homme lui tourne le dos. S'il suivait la lumière que Dieu donne, Dieu, je crois, lui donnerait plus de lumière. Dieu lui donnerait le message de Christ. Le Seigneur veut que chaque homme connaisse Christ. C'est pourquoi il est dit dans Jean 1:9 que Christ est la véritable lumière, venant dans le monde, éclaire tout homme. Dieu veut que les hommes connaissent le Christ, et partout où il trouve un cœur désireux et disposé, il apportera le message de Christ d'une manière ou d'une autre à ce cœur. Mais les hommes ne sont même pas à la hauteur de la lumière qu'ils ont. Cela nous amène au deuxième point, le rejet. Au verset 21, nous apprenons que les hommes se sont détournés de la vérité, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Maintenant, quand ils ont connu Dieu, ils ont tourné le dos à Dieu. Il y a une raison très simple pour laquelle cela nous est indiqué dans Jean 3:20, je crois. ils ne sont pas venus à la lumière, parce qu'ils avaient peur que leurs actes soient quoi ? Exposés. Les hommes voient Dieu, ils voient la vérité de Dieu, et ils courent parce qu'ils ne veulent pas être exposés. C'est la base de tout cela. Ils ne sont pas disposés à venir à la lumière, de peur que leurs actes ne soient réprouvés, de peur qu'ils ne soient démasqués, de peur que le rocher sur lequel ils se cachent ne soit soulevé et que tout le monde connaisse la vérité. Donc, ils rejettent Dieu. La mise en accusation de Daniel, en passant, de Belshazzar dans Daniel 5, 23, est vraie pour beaucoup de gens. Il le dit, et je pense que c'est une excellente déclaration. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Vous rejetez un Dieu qui est votre vie. Quand l'homme fait cela, quand il rejette la révélation et qu'il tourne le dos à Dieu, il graisse le toboggan et il s'éloigne davantage de Dieu. Il tombe, dit-il au verset 21, dans des imaginations vaines ou des raisonnements vains. Nous en avons parlé la dernière fois, c'est-à-dire la philosophie humaine. Maintenant, je veux rendre quelque chose très clair. Je ne suis pas totalement contre toute logique humaine. Je ne suis pas contre tout raisonnement humain. De temps en temps, l'homme a croisé la vérité, sans aucun doute. Mais quand je parle de philosophie, j'en parle comme Paul le fait dans Colossiens 2:8. Je parle des vains raisonnements dont il parle ici. Ce que nous voulons dire, c'est une philosophie inutile, un raisonnement vide, qui est dépourvu de Dieu. Quand Dieu se révèle et que l'homme le rejette, alors l'homme glisse de Dieu vers sa propre philosophie, son propre raisonnement, sa propre imagination, ses propres spéculations de la science, tout ce qui est sans doute faux. La perception de la vérité par l'homme devient désespérée et obscure, confuse et incertaine. Son cœur est alors plongé, à la fin du verset 21, dans l'obscurité totale. La lumière est éteinte. Il commence par la lumière, et vous pouvez la voir. La façon dont vous pouvez voir cela, c'est en regardant un petit enfant. Il répond au message. Ce midi, nous avons déjeuné avec un couple de Floride. L'homme a dit qu'il était retourné dans sa famille quand il a été sauvé, et qu'il les a tous réunis. Et il a 7 frères et sœurs. Il s'est mis debout et leur a parlé de Jésus-Christ à tous. Ils l'ont mis en morceaux. Ils se sont moqués de lui. Ils ont ri. Et il a répondu qu'ils avaient tous fait leurs études à l'université de Harvard ou à l'Institut de technologie de Massachusetts. Ils se considèrent tous comme des intellectuels. Il a dit qu'il avait fini avec tout cela. Et il avait 2 petites sœurs. Elles étaient en larmes après toute sa présentation. Elles ont dit au reste de la famille, « Ne voyez-vous pas que ce qu'il nous dit à propos de Jésus est vrai ?» Comment est-ce qu'elles ont compris cela ? Vous n'avez jamais rencontré un athée de 8 ans. Le message de Jésus ne leur pose aucun problème. Ce qui peut être connu de Dieu leur est visible. Ils ont un cœur ouvert. C'est pourquoi Jésus a dit, « À moins que vous ne deveniez comme un petit quoi ? Un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume. » Puis, quand ils vieillissent, ils deviennent sophistiqués. Ils doivent choisir leur voie. Alors ils tournent le dos à Dieu. Ainsi ils deviennent sombres. Tout d'abord, c'est une vaine raison vide, dans le vide de la vanité, là où on plonge dans les ténèbres, et les lumières s'éteignent. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul s'est mis à exercer son ministère, la définition de son ministère était ainsi. « J'ai été envoyé vers les païens, Actes 26:18, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à quoi ? La lumière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Leur cœur maléfique est embrumé. Leur cœur insensé s'est assombri. Nous avons dit la dernière fois que c'était à la fois l'obscurité intellectuelle et l'obscurité morale. Nous voyons que tout au long de l'Écriture, les ténèbres peuvent se rapporter à l'intellect ou à la moralité d'un individu. Ainsi, l'homme descend et refuse de connaître Dieu. Il rejette Dieu. Il refuse de glorifier et de remercier Dieu. Il se retrouve alors avec son propre raisonnement humain, et cela le plonge dans le noir absolu. Il est totalement incapable de discerner ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est un mensonge. Il est perdu. En passant, il est descendu si loin de Dieu, bien sûr, dans son gouffre de ténèbres, qu'il n'a aucune capacité en lui de chasser le mal. C'est la raison pour laquelle, à mesure que les pays, les nations et les peuples s'éloignent de Dieu, ils se dirigent vers l'immoralité et la moralité, parce qu'il n'y a finalement aucune contrainte dans la philosophie humaine. Et cela nous amène à la 3e étape, la rationalisation. Vous souvenez-vous de cela, de la dernière fois, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Les hommes ont entendu la vérité, rejeté la vérité, et maintenant ils affirment que leurs ténèbres sont la vérité. Et ils se lèvent et disent « Nous connaissons la vérité ». Cela me dit qu'ils ont perdu contact avec la réalité. Ils ont totalement perdu le contact avec la réalité. Ils ne savent plus ce qu'est la vérité. Comme Pilate a dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qui sait ce que c'est? C'est le caractère de l'homme perdu. Il est absolument incapable de déterminer ce qui est vrai. Il ne sait pas. Dans 2 Timothée 3:13, vous obtenez l'image ici. Mais les hommes méchants et imposteurs, écoutez, avanceront toujours plus dans le mal. Écoutez ceci, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est caractéristique de la philosophie humaine. Ils trompent les autres parce qu'ils se trompent totalement. Ils ne connaissent pas la vérité. Dans Tite 3:3, quand nous disons « Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés », il est caractéristique de l'homme non régénéré d'être trompé, de ne pas connaître la vérité, de ne pas la connaître car il est dans le noir absolu. Mais savez-vous ce qu'il fera inévitablement? Il restera là et rationalisera qu'il connaît la vérité et il vomira toutes ses réponses supposées. C'est une déclaration intéressante faite par Ésaïe, le prophète, dans Ésaïe 47:10, dit « Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais « Personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur « Moi et rien que moi. » N'est-ce pas intéressant? Vous êtes tellement perverti parce que vous pensez savoir que vous avez décidé que personne ne savait quelque chose, à part vous. Vous avez toutes les réponses. Quelle illusion! C'était l'illusion de Lucifer quand il est tombé, d'ailleurs. Il pensait qu'il avait toutes les réponses. Il pensait que la sagesse résidait en lui. Il se regardait et voyait la majesté et la beauté de sa personne, créée par Dieu, et cela lui montait à la tête. Il pensait qu'il était supérieur à Dieu. Quelle illusion! Ainsi, Dieu a le droit de juger l'homme, parce que l'homme le rejette dans les ténèbres de son esprit tordu et perverti. Puis il affirme bêtement qu'il est sage. Son fantasme l'entraîne dans cette tromperie. Mais voulez-vous savoir quelque chose? Même au milieu de sa philosophie humaine, et au milieu de son esprit embrouillé, dans la noirceur de son cœur, il a une connaissance innée que Dieu doit exister. Avez-vous déjà remarqué cela? C'est vrai. Même s'il veut être philosophe, il veut que tout demeure en lui. En fin de compte, il est un être religieux, et il ne peut pas le nier. Ainsi, nous arrivons à la quatrième des quatre raisons de la colère de Dieu. La quatrième dans la descente de l'homme, la religion. De la révélation au rejet, à la rationalisation, à la religion au verset 23. Parce qu'il crie pour avoir un Dieu. Il doit avoir un Dieu. Il y a l'attraction de la dimension surnaturelle sur sa nature. Il doit adorer quelqu'un, il doit s'incliner quelque part. Tout comme il respire de l'air, il doit adorer quelque part, et il le fera. Même au milieu de sa philosophie, il doit avoir un Dieu. S'il n'a pas le vrai Dieu, il inventera un Dieu avec lequel il pourra vivre. Le verset 23 nous le dit. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une idole, ou des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voltaire a dit un jour, « Dieu a fait l'homme à son image, et l'homme lui a rendu l'appareil. » C'est vrai. Il tombe jusqu'à la fosse et fait la pire chose qu'un être humain puisse faire. Il devient religieux. Le pire blasphème contre Dieu. La religion qui remplace le vrai Dieu. Voulez-vous que je vous montre comment je sais cela? Revenez au chapitre 20 d'Exode. Maintenant, ici, Dieu établit les règles, les normes. C'est le décalogue, les 10 commandements. Verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Voici les normes prioritaires de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voici la règle numéro 1. Tu n'auras pas d'autre quoi, Dieu, devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, premièrement, pas d'autre Dieu. Règle numéro 2, aucune idole, de quelque forme que ce soit. C'est la norme la plus élevée. Cela se résume dans la déclaration de notre Seigneur. C'est le grand commandement. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. En d'autres termes, soyez totalement engagés envers le vrai Dieu. Il n'y a pas de place pour aucun autre Dieu. Lorsque les hommes deviennent religieux, séparés du vrai Dieu, ils ont violé la norme de Dieu à son point de départ. C'est la chose la plus blasphématoire qu'ils puissent faire. Un homme a acheté une statue du Christ et l'a posée sur son bureau. Quelques jours plus tard, sa femme l'a déplacée dans le salon. Quelques jours plus tard, il est apparu dans la salle à manger, incitant un petit enfant à dire « Où vas-tu mettre Dieu ?» C'est peut-être la question que Dieu veut que chaque homme pose. « Où vas-tu mettre Dieu ?» Il exige la première place. Ce commandement dit qu'il n'y a qu'un seul endroit où Dieu doit être mis, et c'est le premier. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y aura pas d'idole ou d'image d'aucune sorte. C'est précisément ce que l'homme a violé. Il enfreint les commandements de Dieu au tout début, en blasphémant Dieu. Ainsi, l'homme est inexcusable. Il y a une bonne illustration de cela, je pense, dans Deux Rois 17. Et vous pouvez voir que même Israël a fait cela. Israël a suivi ce courant. Dans Deux Rois 17, 15, écoutez juste une minute. Nous lisons à leur sujet. Le verset 14 dit « Mais ils n'écoutèrent point. Ils n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Donc, c'était la première chose. Dieu s'est révélé à eux, mais ils l'ont rejeté. Ils n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ils ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils avancent. Dès qu'ils rejettent Dieu, ils glissent dans le vide, et ils sont devenus vains. Cela ressemble exactement à Romains 1. C'est ce qu'a fait Israël. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de veaux en fonte. Ils fabriquèrent quoi ? Des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. C'est incroyable ! Dieu s'est tellement mis en colère qu'il a enlevé tout le monde, sauf la tribu de Juda, dit le verset 18. Qu'ont-ils fait ? Ils ne voulaient pas croire en Dieu. Alors ils sont descendus de là dans le vide, et du vide dans l'idolâtrie, et de l'idolâtrie dans la perversion morale. À la fin du verset 17, « Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal, et pour être jugés. » Regardez avec moi pendant un moment le chapitre 5 de Daniel, et voyons cette même vérité illustrée pendant un moment. C'est fascinant. Daniel 5, 17. Belshazzar, le roi, a organisé une grande fête, vous savez. C'est le chapitre qui parle de l'écriture sur le mur. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi. « Garde tes dons, et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Je ne veux rien de vous, mais je vais vous dire ce que l'écriture dit, de toute façon. Ô roi, le Dieu suprême qui avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, était dans la crainte et tremblait devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. En d'autres termes, il dit, tu aurais dû regarder en arrière et voir Nebuchadnezzar ton père. Et comment c'était avec lui? Dieu lui a donné toutes ces choses. La souveraineté absolue, verset 19. La souveraineté totale, verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit, jusqu'à l'arrogance. Il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel. En d'autres termes, il est devenu un maniaque délirant, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. » Écoutez maintenant cette phrase. « Quoi que tu suces toutes ces choses. » Maintenant, il y a à nouveau le premier principe. Belshazzar a péché contre la connaissance. Tous les hommes le font. Cela aurait dû être clair pour lui, d'après ce qu'il a vu dans le cas de Nebuchadnezzar. Son péché n'était pas dans l'ignorance. Son orgueil, sa vantardise, et son rejet de Dieu était sans excuse, car il aurait dû le voir. La fin du verset 22 l'indique. « Tu suces toutes ces choses. Il a péché contre la lumière. Au milieu de la lumière, il a blasphémé Dieu, verset 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, et ainsi de suite. Qu'ont-ils fait? Ils sont entrés dans le temple, ont pris les vases sacrés, ils s'en sont enivrés, et les ont utilisés pour porter des toasts aux idoles. Ainsi, il a commencé par pécher contre la connaissance, et deuxièmement, il a blasphémé Dieu. Troisièmement, il était idolâtre. Il adorait les dieux de bronze, de fer, d'argent, d'or, de bois et de pierre, qui ne voient pas, n'entendent pas et ne connaissent pas. Nous voici un autre verset. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Puis, bien sûr, il est devenu un homme vil et réprouvé. Toute l'implication dans ce verset, les épouses, les concubines, l'ivresse, le résultat est au verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé. En d'autres termes, c'est fini pour toi. Verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. C'était la fin. Maintenant, qu'avez-vous ici? Un homme connaissant la vérité, tournant le dos à la vérité, blasphémant Dieu. Mais parce que l'homme est religieux par nature, il a fait ses propres dieux, les a adorés, est descendu dans un mode de vie réprouvé, mauvais et vil, et a expérimenté la colère de Dieu. C'est la même chose que vous voyez dans Romains 1. Revenons maintenant à Romains 1. C'est fondamentalement la même chose. Que vous regardiez Israël et sa descendance, que vous regardiez Belshazzar et la sienne. Voici la chronique de la situation des hommes. Je le répète, et je veux que vous vous en souveniez. L'homme n'est pas religieux parce qu'il monte pour essayer de trouver Dieu. Il est religieux parce qu'il court de manière blasphématoire, loin de Dieu dans le gouffre de l'idolâtrie. Toute fausse religion est de l'idolâtrie. Et A. W. Tozer avait raison quand il a dit « L'idolâtrie commence dans l'esprit lorsque nous pervertissons ou échangeons l'idée de Dieu contre autre chose que ce qu'il est vraiment. » Maintenant, je veux vous dire quelque chose à ce sujet qui, à mon avis, est important, à la lumière du libéralisme et de la théologie contemporaine. La descente de l'homme dans l'idolâtrie est définitivement une descente. L'histoire le montre. Les libéraux et d'autres qui essaient de nous dire que l'homme a commencé dans l'idolâtrie, a commencé dans l'animisme primitif, ou le totémisme, adorant les animaux, les totems et autre chose, et qu'il progresse ainsi en avançant. Cela ne peut tout simplement pas être vérifié dans le passé. Cela ne peut pas être vérifié du tout historiquement. Ils disent que l'homme a commencé dans l'animisme, a commencé à adorer les animaux, puis il est passé au polydémonisme. Il a commencé à adorer de nombreux démons, et puis il a travaillé son chemin jusqu'au polythéisme, et il a adoré de nombreux dieux, et puis il a avancé jusqu'au monothéisme, un dieu. Et c'est ainsi qu'il est arrivé là où il allait. C'est ce que nous disent les libéraux. C'est pourquoi ils ne croient pas que Moïse a écrit le Pentateuque. Ils ne croient pas que Moïse connaissait vraiment les 10 commandements de son époque, parce qu'ils croyaient qu'à l'époque où vivait Moïse, l'homme se débattait encore dans l'animisme, le totémisme et polydémonisme. Donc le Pentateuque est faux, en fut écrit bien plus tard et imposé comme s'il était ancien. C'est une théologie libérale typique. L'Encyclopédie Britannica prend ce point de vue, et je l'ai vérifié cette semaine. Voici ce que, vous voulez entendre un paragraphe déroutant, écoutez cela. À une époque où l'étude de la religion était pratiquement confinée au judaïsme et au christianisme, l'idolâtrie était considérée comme une dégénérescence d'une foi primitive, non corrompue. C'est ce qu'ils disent, ce que les chrétiens et les juifs croyaient. Mais l'enquête comparative et historique de la religion a montré qu'elle était plutôt une étape dans un mouvement ascendant. En d'autres termes, ils disent que les juifs et les chrétiens croyaient que l'homme a commencé avec une foi primitive et est descendu dans l'idolâtrie. Mais l'histoire nous dit qu'il a commencé là et qu'il essaie de monter. Puis, dans le paragraphe suivant, il dit ceci. Selon Varro, les Romains n'avaient aucune image animale ou humaine d'un dieu pendant 170 ans, après la fondation de Rome. Hérodote dit que les Perses n'avaient pas de temple, ni d'idole, avant Artaxerxès I. Lucien porte un témoignage similaire pour la Grèce. Et quant aux idoles pour l'Égypte aussi, Eusèbe résume toute la théorie de l'Antiquité quand il dit « Les personnes les plus âgées n'avaient pas du tout d'idoles ». Ce paragraphe contredit l'autre paragraphe. Puis le paragraphe suivant aggrave les choses. Les images des dieux présupposent en effet une définition précise et des pouvoirs de discrimination qui ne peuvent être que le résultat de l'histoire et de la réflexion. Vous savez ce que c'est ? Bla bla bla. Ils disent qu'il est évident que l'homme cherche vraiment à aller vers le haut, mais toutes ces personnes qu'ils citent disent qu'il n'y a pas eu d'idolâtrie dans le passé. La preuve est par leur propre déclaration que l'homme est descendu pendant 170 ans après la fondation de Rome. Il n'y avait pas d'idole, il n'y avait pas d'image. Vous voyez, c'est ainsi que cela se passe. L'homme commence par la foi et en descend. L'Écriture l'affirme. Il dit, par exemple, qu'avant le déluge, il n'y avait pas du tout d'idolâtrie. Le monde n'a pas été noyé parce qu'il y avait de l'idolâtrie. Il a été noyé parce qu'il y avait de l'injustice. Il n'y avait pas d'idolâtrie. Il est dit dans Genèse 4, 26, que les hommes de cet âge invoquaient le nom de l'Éternel. Ils adoraient Dieu. L'homme n'a pas grandi en pratiquant l'idolâtrie pour ensuite connaître le vrai Dieu. Il est descendu là-dedans. Très important. Donc l'idolâtrie du monde, la religion du monde, est une chute, pas une montée. Par conséquent, Paul dit, l'homme est coupable. L'homme mérite d'être jugé. La folie ultime de l'homme est qu'il rejette Dieu et invente ensuite de faux dieux, fait à sa propre image, selon ses propres termes. Il adore ses faux dieux. Puis il se dit sage. Même le poète latin Horace se moquait de la stupidité de l'idolâtrie. Il a écrit ceci. « J'étais un tronc de figuier, une bûche inutile. Les ouvriers ont hésité. Dois-je faire un tabouret ou un dieu ? Ils ont choisi de faire un dieu, et donc je suis un dieu. C'est ridicule. » Dans les apocryphes, il est dit « Un bûcheron expérimenté coupe un arbre facile à manipuler. Il enlève habilement toute son écorce, puis avec un travail agréable. » Il fait un article utile, qui répond aux besoins de la vie. Mais il prend un morceau de rabotage, qui ne sert à rien. Un bâton tordu et plein de nœuds. Le sculpte avec soin, et le fait ressembler à un homme. Ou il le fait ressembler à un animal sans valeur, en lui donnant une couche de peinture rouge, et avec de la peinture couvrant chaque défaut. Puis il en fait une niche appropriée, la place dans le mur, et la fixe avec du fer. Veille à ce qu'elle ne tombe pas, car il sait qu'elle ne peut pas céder elle-même, car ce n'est qu'une image et a besoin d'aide. Puis il le prie pour son mariage et ses enfants. Pour la santé, il fait appel à une chose faible. Pour la vie, il prie une chose qui est morte. Pour obtenir de l'aide, il supplie un objet totalement inexpérimenté et il demande la force d'une chose dont les mains n'ont pas de force. Or, c'était l'écriture des anciens à l'époque. Ils pensaient tous que c'était vraiment insensé. Et pourtant, ils étaient piégés dans le rejet de Dieu, avec peu d'autres alternatives. Dans Ésaïe 44, 6, juste quelques réflexions. Essayez de modifier certaines choses, afin de ne pas aller trop loin. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu, aucun Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions ? Qu'ils le déclarent et me le prouvent. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. En d'autres termes, qui va mener la danse dans l'histoire? Qui va faire la création sauf moi? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te lèche pas des longtemps annoncés et déclarés. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Dieu dit, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. En d'autres termes, c'est tellement stupide que s'ils amenaient tous leurs dieux pour les entasser dans une pile, ils se sentiraient en quelque sorte idiots. Il continue en décrivant comment ils faisaient cela. Ils abattaient des arbres. Ils travaillaient avec le feu et le métal. Ils le sculptaient. Lorsqu'ils avaient terminé, ils obtenaient quelque chose qu'il ne peut pas voir, ne peut pas entendre, ne comprend rien, ne peut pas penser. Puis Dieu dit à son peuple, « Ressaisissez-vous. Pourquoi adorerez-vous cela ? Vous voyez, quand l'homme rejette Dieu et se vénère, il doit invariablement faire un Dieu de sa propre création. Je m'empresse d'ajouter que fondamentalement, et je veux que vous le notiez dans votre esprit, toute idolâtrie est une adoration de soi, et c'est vrai, dans un sens. Dans un autre sens, c'est l'adoration de Satan, ou l'adoration des démons. Nous verrons cela dans une minute. Mais dans un sens, c'est une adoration de soi, parce qu'en fin de compte, l'homme finit par s'adorer, parce qu'il invente des divinités qui lui ressemblent. Dans Ésaïe 2:8, il est dit « Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ils adorent en fait la création qu'ils ont créée. En fait, ils s'adorent eux-mêmes. » À propos, la quintessence de cela vient avec l'Antéchrist, qui est assis dans le temple de Dieu, se disant qu'il est quoi ? Dieu. 2 Thessaloniciens 2:3-4. L'Antéchrist s'assoit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ainsi, l'homme est idolâtre. Son idolâtrie, en fin de compte, même s'il ne l'admettra pas, est l'adoration de soi. Il rejette le vrai Dieu. Il affirme dans son propre esprit qu'il est sage, donc il mènera la danse. Il déterminera ce qui est vrai, et dans le sentiment résiduel qu'il doit y avoir un Dieu. Il en crée un de son propre esprit, qui est le produit de sa propre pensée. Il adore ce Dieu, et en fait se vénère lui-même. Ceci, croyez-moi, est l'ultime hérésie damnable dont Paul a écrit à Timothée. Mais regardez maintenant le verset 23. L'essence en est qu'il change la gloire, ou l'échange, est une meilleure façon de le dire. Il échange la gloire du Dieu incorruptible contre une idole. Je veux dire, c'est incroyable que la nature incorruptible, éternelle et divine de Dieu, soit échangée contre un bâton, une pierre, ou une sorte d'image fabriquée. Mais c'est ce qu'ils font. Puis-je m'empresser d'ajouter que lorsque les hommes font cela, en fait, ils finissent par adorer le diable lui-même. Juste pour vous montrer cela, 1 Corinthiens 10 nous donne un verset clé. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, 20. Écoutez simplement ceci. Je dis que ce qu'on sacrifie, écoutez bien maintenant. En d'autres termes, le monde de la religion fait des sacrifices. Et il parle au verset 19 des idoles qu'ils adorent. L'idole n'est rien, dit-il, et ainsi de suite. Mais les idoles qu'on sacrifie, les choses qu'ils sacrifient, on les sacrifie à des démons. Est-ce que vous avez saisi cela? Pourquoi? Parce que, si vous voulez adorer un bâton, un démon se fera passer pour le dieu que vous pensez avoir dans le bâton, et fera assez de choses pour que vous continuiez à adorer ce bâton. Vous savez, je me suis posé cette question tant de fois. Comment les personnes peuvent-ils adorer un rocher? Comment peuvent-ils faire cela? Bientôt vous allez dire, ce rocher ne fait jamais rien. Je veux dire, je prie le rocher, et rien ne se passe. Peut-être qu'il adore le même rocher que 20 générations l'ont adoré avant lui. Et vous vous demandez comment ils peuvent tous s'accrocher à ce rocher. Fondamentalement, si vous adorez le Dieu que vous pensez être dans le rocher, je crois qu'un démon imitera le Dieu que vous pensez voir dans le rocher, et il fera assez de choses surnaturelles. Assez de phénomènes se produiront pour attirer les personnes et les rendre dépendantes. Je crois que si les personnes veulent adorer les étoiles en astrologie, que Satan fera en sorte que suffisamment de choses se passent par son pouvoir pour garder les personnes accros à ce genre de choses. Donc, tout d'abord, c'est l'adoration de soi. Deuxièmement, c'est l'adoration de Satan. Toute religion, sauf une vraie, est la seule vraie l'adoration de Dieu par le Christ. Toute autre chose. Les gens disent « Oh, vous ne devriez rien dire sur des fausses religions. Vous ne devriez pas faire cela. Écoutez, c'est affreux. C'est un blasphème. Il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, et c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tout le reste est une adoration de soi, et une adoration de Satan formée en une seule boule. Les religieux s'adorent eux-mêmes, et ils le savent, je pense, mais ils adorent le diable, et ils ne le savent probablement pas. Voyons maintenant les idoles qu'ils fabriquent. Nous allons commencer par la fin et revenir en arrière. Des bestioles. Savez-vous que les gens, à travers les siècles, ont adoré les insectes? C'est vrai, les insectes, les scarabées. Vous allez en Égypte, et partout où vous allez, On vous dit qu'ils adoraient ces petits scarabées. Ils en étaient vraiment accros. En fait, j'ai ramené à la maison quelques scarabées pour illustrer. Les choses rampantes pourraient être des insectes, des coléoptères et des serpents, n'importe quoi, d'un serpent à une mouche. Vous dites, les gens adorent-ils les mouches? Bien sûr, Belzébuth signifie le seigneur des mouches. C'est vrai, ils adorent les mouches. Pendant le culte des Philistins, ils adoraient des mouches. Les Assyriens adoraient des serpents. Dans le temple d'Axium, les Grecs sacrifiaient un bœuf au dieu des mouches. Pline nous raconte qu'à Rome, les sacrifices étaient offerts aux mouches qui volaient autour du temple d'Hercule. Les Syriens ont, sans aucun doute, offert des sacrifices aux mouches. Il est dit qu'aucune mouche n'a jamais osé entrer dans le temple de Salomon. Je remets cela en question. Aujourd'hui, les hindous ne tuent pas les mouches, parce qu'ils ont peur de profaner une divinité qui travaille sur quelqu'un qui, dans une vie antérieure, était une mouche. Les serpents figurent dans de très nombreuses religions, en tant que dieux. Puis, non seulement les hommes adorent ce genre de truc, mais ils adorent les bêtes à quatre pattes. Maintenant, même les juifs adoraient le veau d'or, n'est-ce pas? Non seulement ils l'ont fait, dans Exode 32, à Sinaï, mais ils ont installé deux veaux d'or, dans un roi, chapitre 12, à Dan et Bethel, et ils les ont adorés de nouveau. Les Égyptiens adoraient les taureaux. Je n'oublierai jamais, quand j'étais en Égypte, ils nous ont emmenés, nous sommes montés à cheval, et sommes allés aux pyramides. Ces petits garçons arabes tiraient les chevaux. Ils ne connaissaient que deux mots anglais, vous savez, dollar et Lone Rangers. Oh ouais, ils connaissaient aussi John Wayne, Lone Ranger, John Wayne et dollar. Nous roulions là-bas et nous avons fait une autre petite promenade à cheval. Nous sommes allés à ce cimetière absolument exquis et ils l'ont découvert dans le sable là-bas. Nous sommes entrés et il y avait ces arrangements massifs de sarcophages, avec d'énormes cercueils qui ont été découverts dans le sol. Ils nous ont dit que dans ces derniers étaient enterrés des taureaux sacrés, d'énormes taureaux. Ils les enterraient dans le sol, puis empilaient le sable par-dessus. Et il y avait des chambres, avec des tableaux sur les murs, et toutes les richesses. Des fortunes étaient littéralement cachées dans les endroits où ils enterraient les taureaux égyptiens. Les Grecs adorent Diane des Éphésiens. Quand vous pensez à Diane, vous pensez probablement à une fille svelte, en robe blanche. Diane des Éphésiens était une bête noire, laide et grossière, qui avait tout un tas de mamelles pendues sur elle, comme auraient 14 vaches. Tout sur une seule bête. Elle est dans le monde, une chose grossière. C'est Diane. Tout au long de l'histoire, ils ont adoré les vaches, les souris, les rats et les éléphants sacrés. Saviez-vous qu'en Égypte, il y avait Sobek, le dieu crocodile? Il y avait Anubis, qui était à moitié homme, avec une tête de chacal. Les deux principales divinités égyptiennes étaient Osiris et Isis, et elles étaient le soleil et la lune. Ils adoraient le soleil et la lune. Soit dit en passant, Paul ne couvre pas toutes les choses possibles. Ils ont adoré les étoiles, le soleil, la lune. Ils ont adoré tout ce qui existe, les rochers, les arbres, tout. Ceci n'est qu'un exemple. Les Égyptiens adoraient la cigogne, ils adoraient le singe, ils adoraient le chat, ils adoraient le faucon, ils adoraient au moins 20 000 autres animaux. Thèbes adorait un bélier, Memphis adorait un bœuf appelé Apis, et Bubastis un chat, Momenphis une vache, les Mindésiens un bouc, les Hermopolitains adoraient un poisson, et les Paprimas de cette époque, qui est une région égyptienne, adoraient un hippopotame. Les Lycopolitains adoraient un loup. Cela continue encore et encore. Les serpents. Certains d'entre eux adoraient même les œufs de crocodile. Puis il est dit au verset 23, remontant à nouveau, des oiseaux. Les Romains adoraient l'aigle. Ils ont fait des aigles une idole. Hérode le Grand fit ériger un aigle royal au-dessus de la porte de Jérusalem et exaspéra les Juifs. Les soldats de Rome avaient des aigles sur leurs étendards. Les Juifs les ont reconnus comme des idoles interdites par la loi divine et ont essayé de les démolir, ce qui a causé toutes sortes de problèmes. Les Indiens d'Amérique ont adoré les oiseaux et les ont mis sur leur totem, comme les oiseaux tonnerres. Les hommes qui ont construit les pyramides ont adoré, entre autres, certaines espèces d'oiseaux. Ils adoraient les insectes, les animaux. Cela continue encore et encore, et je pourrais continuer. Les hommes cultivés de Rome, par exemple, ont étudié les entrailles des moutons ou le vol des oiseaux, tout comme les astrologues. Ainsi, l'homme a mis les choses les plus absurdes à la place de Dieu. Puis finalement, il est dit au verset 23, en premier, qu'il a échangé la gloire du Dieu incorruptible contre une image faite comme un homme corruptible. L'homme est en quelque sorte le niveau de culte le plus élevé, le plus sophistiqué. Ils adoraient César. Ils ont mis son visage sur toutes les pièces de monnaie. Les dieux des Grecs et les dieux des Romains étaient à peu près des dieux créés ressemblant à des hommes. Les dieux de la Mésopotamie, en passant, étaient au nombre de 1500. Ils avaient des dieux de la guerre, des dieux de la fertilité, des dieux du savoir, des dieux de la chasse, des dieux du ciel, de la terre, du feu, de l'air, de l'eau, et ainsi de suite. Très souvent, ils se présentaient sous la forme d'un homme imaginaire ou d'une créature ressemblant à un homme. Au cours des siècles, les hommes se sont prosternés devant des formes d'autres hommes. Les gens d'aujourd'hui, même dans l'Église romaine, se prosternent encore devant des idoles d'hommes morts. Ils ne disent peut-être pas que c'est un culte, mais c'est ainsi que cela se passe pour beaucoup d'entre eux. Dans le psaume 115:4, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ils ne savent pas plus que ces idoles stupides. C'est ce que dit le psalmiste. Les principaux dieux étaient très souvent sous forme humaine. L'homme est idolâtre. Vous dites, John, comment cela se rapporte-t-il à aujourd'hui? En Amérique, nous n'avons pas. Nous en avons en partie, je suppose. Nous avons probablement des gens étranges quelque part qui adorent à peu près tout ce qui existe. Mais nous avons d'autres dieux, un peu plus sophistiqués, je suppose. Aujourd'hui, nous adorons la science. Nous adorons le communisme, la laïcité, l'humanisme, le rationalisme, le naturalisme, l'écologie. Nous adorons l'argent, le plaisir, le sexe, la romance, le divertissement, le sport, l'éducation, le prestige, le pouvoir, les chanteurs de rock, les stars de cinéma, les grands athlètes. L'homme est idolâtre. Maintenant, ce n'est qu'une partie de son culte. Quelque part sur la ligne, il croit en un dieu et il créera un dieu de son propre raisonnement. Donc, le résultat final, et je pense que vous voyez l'image, est la religion, l'homme descend. Je pense que cela est illustré de manière unique par un phénomène récent que je vous ai raconté la semaine dernière. J'ai mentionné le jeu appelé Donjons et Dragons. Donjons et Dragons est un nouveau jeu. 3 millions d'Américains jouent actuellement à ce nouveau jeu. Je pensais vous lire une partie de ce qu'il dit et de quoi il s'agit. Donjons et Dragons est un jeu fantastique. Au lieu de l'arrière-plan historique et des jeux de guerre populaires à la fin des années 1950, les jeux Donjons et Dragons sont combattus dans l'esprit des joueurs alors que le maître des donjons prépare le terrain dans un monde fantastique. De nouveaux jeux sont en cours de création, plus sophistiqués et plus cruels que les Donjons et Dragons originaux. Ceux-ci sont appelés jeux de rôle fantastiques, et parmi les plus connus sont RuneQuest, Chivalerie et Sorcerie, Ardouin Grimoire, Tunnel et Trolls. Et cela continue, encore et encore. Voici le jeu. Une personne devient le maître du donjon et joue le rôle de la citation. Dieu suprême est dans le monde. Il crée un monde pour ses joueurs. Ses outils sont des cartes, des dés, des figurines miniatures, des livres de règles, etc. Un jeu peut durer plusieurs années. Les joueurs joueront pendant ces années, pendant des heures et des heures. Quel est le fantasme ultime de l'homme? Le fantasme ultime de l'homme est que l'homme devrait être Dieu. Cela parle de ce fantasme. Lorsqu'un jeu commence, chaque joueur reçoit une personnalité créée, par laquelle il entre dans le jeu. Vous devez être quelqu'un. Il peut rester dans le jeu tant qu'il n'est pas tué. Il doit tuer d'autres personnes pour rester dans le jeu. Si le jeu continue pendant longtemps, la plupart des joueurs s'identifient au personnage qu'ils jouent. Et le jeu devient maintenant un véritable événement dans lequel le joueur commence à avoir du mal à séparer la réalité de la fantaisie. Lorsque les personnages sont créés, les dés gouvernent ce qu'ils seront. Dans les manuels Donjons et Dragons, Chaque personnage aura 6 capacités de base. La force, l'intelligence, la sagesse, la constitution, la dextérité et le charisme. Les directives du manuel déterminent si le personnage sera bon ou mauvais. Pour survivre aux événements du jeu, chaque personnage est équipé d'armes spéciales, comme des armes magiques, des potions, des sorts, des bibelots magiques, de l'eau bénite, de l'ail et des trucs issus de la sorcellerie. Le but du jeu est de manœuvrer ses personnages à travers un labyrinthe continu de donjons, rempli de monstres, de magie, d'embuscades et d'aventures, à la recherche de trésors, etc. Ce que vous finissez vraiment par faire, et à travers tout ce labyrinthe, c'est vous tuer, et ainsi de suite. Et tout le monde essaie de devenir le maître des donjons. Tout le monde veut être Dieu. Je ne peux pas tout vous lire, c'est choquant. Selon le manuel d'instruction de Donjons et Dragons, la sagesse est la première condition. Des sorts miraculeux peuvent être lancés. Cela continue encore et encore. Il y a aussi eu des incidents intéressants où l'homosexualité, la sodomie, le viol et d'autres actes pervers de sexualité se jouent, bien sûr, dans le jeu. Et les gens ont en fait tellement porté cela dans la vie qu'ils vivent leur fantasme. Un jeune garçon a déclaré « 90% du temps il était qui il était dans le jeu et 10% du temps il était ce qu'il était vraiment. Un maître de donjon a des pouvoirs qui ne peuvent jamais être obtenus sur Terre, car il est devenu un dieu dans son propre monde fantastique. À propos, en 1980, ils ont vendu pour 20 millions de dollars du jeu, et ils s'attendent à en vendre pour 60 millions de dollars cette année. En passant, lorsque vous êtes tué dans le jeu, vous pouvez être ressuscité si vous trouvez la bonne source magique. Maintenant, le résultat de tout cela, juste pour vous donner une réaction, est que le jeu enseigne la sorcellerie, et il enseigne le culte des démons. Il enseigne comment ressusciter les morts en lançant des sorts. Il utilise une phrase, mais je ne me souviens pas des mots exacts, mais il contient un terme élémentaire. Un écrivain déclarait que le seul autre endroit où l'on trouve cette phrase est dans la sorcellerie. Mais l'idée générale est que cela entraîne les gens dans l'occultisme et leur donne le fantasme qu'ils peuvent devenir Dieu. C'est le fantasme ultime de l'homme, ainsi que la promotion de l'homosexualité, de l'inceste, du viol, et certaines de ces choses qui sont si viles et misérables, et qui sont encore bien pires dans les jeux consécutifs. Maintenant, pourquoi un jeu comme celui-ci attirerait 3 millions de personnes qui y jouent actuellement? Pourquoi? Parce que c'est le fantasme ultime de l'homme. Il veut être Dieu. Il veut mener la danse. Il veut contrôler tout le monde autour de lui. Il veut déterminer le destin des personnes. Il veut déterminer qui meurt et qui vit. C'est ce que vous faites dans ce jeu. L'homme est religieux, oui, par nature. Mais quand il efface Dieu de sa vie, il ne lui reste plus que lui-même. Donc il se poussera à être Dieu, que ce soit le Dieu maître suprême des donjons, que ce soit un Dieu qu'il fabrique dans son esprit religieux, ou que ce soit un élément du monde séculier qu'il adore. Il sollicitera invariablement un Dieu, et alors son fantasme est qu'il adorera ce Dieu de sa propre création. La vérité est qu'il adore le Dieu de ce monde, qui n'est autre que Satan lui-même. C'est pourquoi la colère de Dieu est révélée. C'est pourquoi Dieu est en colère contre le péché, car il reflète la descendance de l'homme. Au fait, il y a encore une étape. C'est vrai. Une dernière étape de plus. Je pourrais l'appeler réprobation. Vous trouvez dans les versets 24-32, au milieu du verset 28, « Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ni la philosophie de l'homme, ni la religion de l'homme ne peuvent retarder son vil péché. » Alors il descendra dans l'impureté, dans la convoitise de son propre cœur. Il déshonorera son propre corps. C'est ce qu'il va faire. Verset 26. Ils seront livrés à des passions infâmes. Nous lisons. Des femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, les lesbiennes, les homosexuels. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, et ainsi de suite. Vous voyez, quand vous commencez par une révélation, et que vous tombez de là jusqu'au rejet, que vous tombez de là jusqu'à la rationalisation, que vous tombez de là jusqu'à la religion, la prochaine étape est la réprobation. Vous avez juste un esprit réprouvé, Cela signifie un esprit totalement incapable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous tombez dans la saleté grossière, vile, qui caractérise notre monde. C'est pour cela que Dieu est en colère. C'est pourquoi il a le droit d'être en colère. Maintenant, écoutez ceci pendant que je termine. Je vais entrer dans les versets 24 et 32 à mon retour. Ce n'est pas la nature de Dieu, et vous devez l'entendre. Ce n'est pas la nature de Dieu de prendre plaisir à la punition. Tandis que je vis, aussi sûrement que je vis et qu'il vit, aussi sûrement que je vis, a dit le Seigneur Dieu, je n'ai aucun plaisir à la mort de quoi ? Des méchants. Aucun plaisir. Mais que les méchants se détournent de leur voie et vivent. Il dit, revenez, détournez-vous de vos mauvaises voies. Car pourquoi mourriez-vous ? C'est le cœur de Dieu. Il est en colère parce que sa sainteté réagit. Ce n'est pas son désir. Dieu prend plaisir à faire preuve de miséricorde. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Jésus dit, ô Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'aurais rassemblé tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu ne l'as pas fait. Quand il s'est approché de la ville, il est dit, il pleura. Il pleura. Il a dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, et il pleura. Dans le cœur de Dieu, il y a des larmes mêlées à sa colère, parce qu'il appelle les hommes à répondre à sa grâce. Mais l'Évangile commence par sa colère. Il est en colère parce que les hommes sont coupables. Inclinez la tête avec moi et écoutez ceci. Il y a de nombreuses années, un homme du nom de J. H. Clinch a écrit des mots qui sont, je pense, provoquants. Ils nous obligent à réfléchir au choix. Soit glorifier Dieu, soit refuser et vivre la descente. Il a écrit ceci. Nous nous détournons encore de lui et nous remplissons nos cœurs de choses sans valeur. Les feux de l'avidité font fondre l'argile, et l'idole jaillit, la flamme de l'ambition et la chaleur de la passion, par une merveilleuse alchimie, transmute les scories de la terre pour soulever une brute dorée, pour remplir le siège de Jéhovah. C'est vrai, les hommes font des dieux pour prendre la place de Dieu. C'est pourquoi Dieu est en colère. Ne vous méprenez pas sur le fait que l'homme est bon, qu'il est en train de s'améliorer, il est en train de descendre. Les hommes méchants deviennent de pire en pire. Pas de mieux en mieux. Le monde ne s'améliore pas, et les hommes ne s'améliorent pas. Ils empirent, parce que c'est ainsi que cela se passe. De la révélation au rejet, à la rationalisation, à la religion, à la réprobation. Mais il ne doit pas en être ainsi. Le Christ tend la main à chacun de nous et ne veut pas que nous périssions. Vous pouvez invoquer le Seigneur Jésus-Christ et être sauvé tout de suite, là où vous êtes assis. Si vous n'adorez pas le vrai Dieu, vous êtes coupable et passerez l'éternité en enfer à payer pour votre culpabilité. C'est votre choix. Même si vous êtes très religieux, cela ne vous rapproche pas de Dieu. Vous êtes en fait très loin, si ce n'est pas par le vrai Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, Père. Merci ce soir pour ta parole, bien que nous ayons essayé de couvrir beaucoup de choses, de sauter certains détails, et de nous dépêcher pour étudier certaines choses. Nous prions pour que le message soit clair. Aide-nous à voir que tu avais raison d'être en colère, parce que les hommes ont rejeté ce que tu as fait. Ils ne connaissaient pas l'heure de ta visite. Ils ne savaient pas. Parce qu'ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ne voulaient pas de toi. Ce n'était pas qu'ils étaient des victimes, c'est qu'ils ont refusé. Aujourd'hui même. Les gens ne sont pas perdus parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Ils sont perdus parce qu'ils ne veulent pas d'opportunité. Ils les rejettent. Qu'ils appartiennent à notre culture ou à une autre. S'ils acceptaient seulement la lumière que tu donnes, tu leur donnerais toute la lumière du Christ. Nous prions pour que cela puisse arriver dans le cœur de certains, même ce soir, pour l'amour du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.